Salut Greg.
Salut Jean-Fred, ça va?
Ça va bien et toi?
Ça va, juste avant ce téléphone, j'étais avec la police pour reporter un braquage en ville de Lausanne mardi soir. Ils m'ont déjà dit qu'il y a eu des appels. Un jeune fou s'est téléphoné déjà ce matin pour leur faire part de ce braquage. Donc c'est bon, ils sont sur le coup. C'est un certain Valentin N qui est le responsable. Donc je crois que c'est bon et on va le retrouver.
Il est connu des services.
Ouais, non, mais bon, moi j'ai pas d'autre terme que braquage à la fin de cette soirée quand même. Mais je te propose, avant de parler plus en détail de ce match, on revienne vite fait sur les sanctions. On continue à parler d'extrasportifs ou de bureaux, on va dire. À la suite de l'épisode d'hier, donc on en était resté à Cody Almond. Il va quand même pas prendre 5 matchs qu'il a fait, selon Grégory Baudeblick. Il a pris 5 matchs, donc on est pas mal, je trouve.
C'est un peu particulier. Encore une fois, la faute, le coup d'épaule à la tête. On le répète, on aime que les joueurs soient protégés, donc il ne faut pas commencer après à gueuler. C'est juste que tout d'un coup, on passe de deux matchs. Le coup de Dugli aussi à la tête de Chris Egli était vraiment pas joli. Oh bon, il prend
Je le trouve beaucoup plus sale au passage. Je le trouve beaucoup plus sale, celui d'Ugli. Et on n'a pas fait d'épisode sur ce sujet, on n'en avait pas fait entre-temps, mais j'aurais probablement dit que je trouve que Ugli s'en sort plutôt pas mal sur ce coup, sur ce coup de coude, du coup. Donc ouais, je suis d'autant plus surpris de voir 5 matchs à Cody Almond pour ça. Moi, ce qui me surprend, je ne sais pas si tu as pris la peine de lire le rapport de la décision du juge ou pas.
Non.
Mais le PSO fait une recommandation parce que c'est son rôle. On rappelle le service juridique de la Ligue, ça se passe comme ça. Il y a un délégué à la protection des joueurs, on va dire ça comme ça, qui donne sa recommandation d'ancien joueur ou de spécialiste de la glace. Il y a un juge qui vient et qui applique un règlement. Ça, c'est comme ça que ça fonctionne. Ça fonctionne, c'est un autre débat, mais c'est comme ça que c'est censé fonctionner. Et le PSO dit c'est une catégorie 2. C'est un peu ce qu'on disait hier d'ailleurs. Catégorie 2 pour Almond, ça se défend totalement. Et le juge unique a donné une catégorie 3. A augmenté, n'a pas suivi, c'est son droit le plus strict, hein, de ne pas suivre la recommandation du PSO et de décider autre chose. Ça, c'est pas un problème dans l'absolu. Le problème que moi, je vois, disons, que je ne sais pas si c'est un problème, mais c'est un truc qui m'a surpris. C'est qu'il a justifié ça pour deux raisons. Une, c'est, en gros, c'est une charge qui ne devrait pas être donnée. Ça, on entend parce que c'est un blindside, parce qu'il n'est pas éligible pour être checké, ça c'est vrai.
Oui.
Mais l'autre argument, c'est qu'il ne reste que 2 secondes à jouer. Et ça, moi je suis d'accord sur le fait que pour cette raison, c'est problématique cette charge. Mais par contre, il y a quand même autre chose. Il faut quand même aussi ne pas négliger une chose, c'est que Davos est en train d'attaquer quand même. Donc on a aussi le droit après de dire « Ok, il ne doit pas charger un joueur à 2 secondes de la fin parce que le match est fini. » Mais alors, dans ce cas-là, pourquoi Davos est en train d'attaquer à 2 secondes de la fin? Bah, excusez-nous de nous défendre. Alors, pas par ce moyen-là, hein, qu'on soit bien d'accord. Le moyen ne va pas. Mais par contre, de dire « Mais ouais, mais attendez, s'ils sont en train d'attaquer, on ne va pas les laisser aller marquer parce qu'il ne reste plus que 2 secondes. Bah, » on défend, quoi. La manière, encore une fois, et j'insiste vraiment sur ça, ne va pas et ce n'est pas OK. Il mérite d'être sanctionné. Mais par contre, cette raison-là, c'est l'une des deux. Et l'autre raison, c'est une charge qui peut arrêter une carrière. Ouais, très bien, mais j'ai pas l'impression que ce soit très factuel. Et moi, ce que j'attends d'un jugement quand il est donné, c'est qu'on soit factuel. C'est qu'on dise, voilà, pour la raison Y, il y a ça, les antécédents nous donnent ça, etc. Moi, quand j'ai vu 5 matchs, j'ai dit, voilà, il a pris X matchs plus
pour
l'ensemble de son œuvre.
Ouais.
Et il n'a pas eu ça. Et à aucun moment, les antécédents n'entrent en ligne de compte. Donc, visiblement, il y a eu prescription sur les autres cas. Très bien. Mais alors, le coup de « ça peut arrêter une carrière », moi, ça me fait quand même me poser une autre question. Quand le PSO donne catégorie 2, et on en revient au cas, on savait qu'il nous ferait chier toute la saison, on en revient là. Et voilà, quand il donne catégorie 2, et nous, on fait des grands cris en disant « Mais attendez, ça, c'est une catégorie 2, mais c'est quoi 3 ?» Et que le PSO suit la recommandation et qu'à aucun moment, l'aspect « C'est une charge qui pourrait arrêter une carrière » n'entre en ligne de compte à ce moment-là. Pourquoi là, ça entre en ligne de compte ? Et moi, c'est ces deux aspects-là qui me dérangent. Pas du tout qu'Almond soit suspendu, on l'a dit. Je pense qu'il a, il doit manquer des matchs. C'est normal.
Oh ouais.
Par contre, c'est la raison derrière qui, moi, me dérange sur cette histoire.
Mais il peut en manquer 5, je te dirais même, dans l'absolu. Si après, on a eu des jugements précédents aussi qui allaient dans un sens un peu plus sévère, ou en tout cas qui nous semblait plus juste. Le problème, j'aime bien quand tu dis le cadeau fin, on savait que ça allait nous faire chier toute l'année. Mais,
c'est sûr.
Mais quand on se rappelle de ce saut sur c'était Tyler Moy, hein,
Tyler Moy, exact.
Avec la canne à hauteur de à hauteur du cou contre la bande où il fait un saut pour aller dessus, tu te dis ouais, ok. Et après, de nouveau, pourquoi ça fait autant discuter, et on voit sur certains groupes Facebook, sur d'autres, sur des forums et tout, chaque fois c'est on voit que les gens comprennent pas, parce qu'après on dit ah ouais, mais toi t'es supporter de X ou de Y. Or, on aimerait enlever les maillots, on aimerait juste dire « Non, mais cette charge, elle va pas, peu importe qui joue pour un club, que ce soit Zurich, qui est protégé, entre guillemets, selon les gens, que ce soit un club roman qui va de toute façon être, qui va se faire… » Voilà, exactement. Non, c'est pas ça. On aimerait bien avoir chaque fois une sorte de guide… Qu'on puisse suivre quelque chose, une ligne directrice. Or, on a l'impression qu'il n'y en a pas, et c'est ça le plus frustrant. Et pourtant, ils ont mis en place, avec le PSO et le juge unique, et tu l'as expliqué, ça tombe bien, parce qu'on avait une question de Florian Romanens qui nous demandait justement qui prend les décisions pour les suspensions des joueurs. Je suis toujours un peu perdu et ne comprends pas exactement qui fait quoi. Merci d'avance pour votre réponse et pour vos podcasts de qualité. Et en fait, ce que je retiens aussi, au-delà de la question, c'est parce que je ne comprends pas toujours. Et j'ai envie de dire, mais nous, on est dans le même cas et vous pouvez l'entendre à longueur de semaine. C'est ça, c'est de ne pas comprendre. Et je pense que c'est ça le plus frustrant, parce qu'on n'a pas l'impression que c'est de la physique quantique.
Non, et puis je trouve que c'est là où ça devient un peu justement après la porte ouverte à toutes les théories... Plus ou moins conspirationniste, on va dire, ou plus ou moins complotiste, pour poser un terme à la mode. Alors que si c'était un tout petit peu plus cohérent, c'est juste ça, en fait.
Ouais.
C'est une certaine cohérence dans les jugements, et là, tu as l'impression qu'il en manque. Moi, ces 5 matchs d'Allemagne, ils me dérangent, comme tu l'as dit, assez justement, pas dans l'absolu, parce qu'on peut l'entendre, mais l'image globale de la saison, où là on se dit mais attends, puis surtout moi il y a quand même cet aspect que j'évoquais hier sur la valeur, on va dire, de la suspension en play-off versus en saison régulière. Je trouve que manquer 5 matchs de play-off pour cette charge, alors qu'on en a vu d'autres manquer 4 matchs pour des choses qui me semblent pas aussi, enfin qui me semblent en tout cas pas moins graves, ouais, je suis quand même perplexe. Mais ce que je te propose, c'est que on a fait le tour de ce sujet.
Oui.
On va parler du match de Lausanne-Davos, acte 5. Je disais avant en rigolant, mais j'appelle ça un braquage. Si on regarde le match en lui-même, si on se penche sur les statistiques, mais même sans regarder les statistiques, hein, juste regarder les images, t'as une équipe qui a ultra dominé. Premier tiers, c'est environ 15 shoots à 1, quelque chose comme ça. Ça se termine sur 37 shoots à 11. Donc là, déjà, rien que là, on a une image assez précise de ce qui s'est passé. Lausanne mérite de gagner, il faut être clair. Avant ce match, j'étais très confiant.
Tu l'as dit d'ailleurs.
Je l'ai dit hier. Ouais, je pensais vraiment que Lausanne allait s'imposer. Ça me semblait pas évident, mais pas loin. Du coup, heureusement qu'on n'avait pas de capsule des paris sportifs hier, parce que bah, on se serait fait avoir. Mais 80 et quelques pourcents, près de 90% de chances de gagner selon les expected goals, c'est encore une fois, comme on l'a déjà expliqué, c'est là où justement, bah, sur un match, 80% de chances de gagner, ça veut dire 10% de chances de perdre. Là, la pièce est tombée du mauvais côté pour Lausanne, mais ce qui est dommage, c'est que si on était en décembre, je te dirais... ouais, bon, ils ont perdu, mais ce match-là, ils vont le gagner 10 fois plus tard dans la saison.
Oui.
Le problème, c'est que plus tard dans la saison, bah, c'est mercredi soir. Et mercredi soir, c'est un match coup près. Si Lausanne perd, Lausanne est en vacances. Donc, ça leur fait une belle jambe de savoir que ce match de dimanche, de lundi, ils l'auraient gagné 90% du temps. Ouais, ben, bah, à 2-2 dans la série, ils l'ont perdu. Et c'est là où c'est un gros problème maintenant pour Lausanne.
Bah, c'est clair. Après, j'aimerais pondérer aussi. On a une question réflexion, on va dire, d'un auditeur qui se dit aussi fan de Davos. Est-ce que j'ose te la lire ?
Avec joie. C'est plus une question, si on peut pas, il y a un problème.
Oui, non, elle est assez longue, c'est pour ça. Nathan Scherler, bonjour, étant fan du HC Davos depuis des années, j'espère que votre analyse du match sera un peu plus détaillée que le LHC méritait de gagner car ils ont plus tiré au goal.
ça vient. Alors, tu me coupes l'herbe sous le pied, allons au bout, mais oui, ça allait venir.
Voilà. Oui, c'est vrai. Et oui, ils ont dominé en termes de présence en territoire adverse. Mais pardon, le premier tiers, mis à part les occasions les plus dangereuses, sont objectivement du côté du HCD, en parenthèse, plusieurs poteaux. Alors, c'est possible que ceux qui prennent les statistiques au niveau du site de la Ligue se soient trompés et n'aient pas vu certains poteaux parce que... en tout cas, j'ai été vérifié moi-même, un des poteaux de Corvi au deuxième tiers est compté comme un tir manqué, ce qui quand même là biaise aussi un peu les statistiques. Ils ont compté que un poteau du côté d'Avos pour tout le match, c'est un poteau de Nordström sur une déviation dans le deuxième tiers, et ils ont compté que le poteau de Pilot pour Lausanne à 30 secondes de la fin. Hier, il m'a semblé flagrant que Davos laisse Lausanne tirer depuis des positions faciles pour Eschliman en protégeant le slot et en provoquant des shoots alibi. À chaque demi-occasion, en revanche, c'est le feu dans l'arrière-garde lausannoise. On voit également que Eschliman, pour le moment, gagne haut la main, son face-à-face avec Hughes. Je ne sais pas si ça suffira à éliminer le HC, mais je trouve la tactique très intéressante, entre parenthèses, mais pas forcément sexy à voir. Surtout que depuis des années, les médias romans nous expliquent que la défense du HCD est mauvaise. Quoi qu'il en soit, bonne fin de journée.
Ouais, alors c'est une très bonne remarque qu'il nous fait. J'allais faire justement j'avais fait les calculs ce matin en préparant l'épisode. Davos, c'est 11 tirs cadrés pour 1,33 expected goal. Ça veut dire chaque tir davosien a un poids de 0,12 buts. On va dire ça comme ça. Mmh. Lausanne, c'est 37 tirs cadrés pour 3,59. Ça veut dire que c'est 0,09 buts par tir. Ça veut dire que les tirs du HC Davos sont généralement largement plus dangereux que ceux de Lausanne. Et Lausanne a clairement le volume et Davos a les actions les plus nettes, c'est vrai. Et il a complètement raison. Et justement, c'est marrant, j'allais y venir dans un second temps. Donc, on est complètement raccord avec nos auditeurs. Ça fait plaisir. Mais j'entends. Mais après, ce qu'il ne faut pas négliger, c'est que chaque tir a quand même une chance de finir au fond, on va dire, avec un vieux patin, avec une déviation malheureuse, avec un coup du sort. Donc, oui, les tirs davosiens sont beaucoup plus dangereux, mais en même temps, ils sont beaucoup moins nombreux. Et il y a moins de... Tu mets quand même moins de pièces dans la machine si tu tires 11 fois que si tu en tires 37, d'une manière ou d'une autre. Mais c'est vrai que Lausanne manque terriblement de tranchants en zone offensive. Ça, c'est une évidence.
Et puis, on ne peut pas dire que... Alors, il manquait certes Boson, mais autrement, Sekac était là. Il pouvait mettre... Alors, évidemment, ça implique plein de changements, mais tu as Apala, tu as Kovacs qui sont surnuméraires, donc tu peux faire un petit shake, un petit coup de shaker pour changer quelque chose. Maintenant, c'est difficile à ce moment-là, et Ward veut pas commencer à se désavouer, parce que surtout, il n'y a pas de raison. C'est pas comme si Lausanne disait « Ouais, ok, bon, bah, perdu pour perdu, on fait ça ». On a vraiment le sentiment, en regardant le match, que Lausanne... maîtrise son sujet défensivement et le fait de ne ramasser qu'un seul but fait dire que finalement la tactique était pas trop mauvaise, surtout qu'en plus le but, on va y revenir, il y a des choses à dire dessus, mais au final, malgré les poteaux, malgré tout ça, tu n'en prends qu'un. Donc.
Oui, je suis d'accord avec toi, mais tu n'en marques pas un.
Voilà.
Donc finalement, est-ce qu'à un moment, et c'est une question ouverte, je n'ai pas la réponse, et je pense qu'il faut. Les deux côtés se défendent, mais à quel moment l'entraîneur doit se dire OK, est-ce que je vais mourir pour mes idées, on va dire ça comme ça, ou est-ce que je dois changer quelque chose? Est-ce que je pars du principe que non, mais ça va tourner parce que la physionomie des matchs fait qu'on ne devrait jamais avoir perdu, parce que on est la meilleure équipe sur la glace, certes, mais est-ce qu'on espère le... Pas un miracle, parce que c'est pas un miracle de gagner quand tu as 90% de chances de gagner un match, mais est-ce qu'on espère que la réussite tourne, ou est-ce qu'on change vraiment quelque chose? À savoir, moi j'en sais rien, tu l'as dit avant, est-ce que tu sors un de tes défenseurs étrangers, mais en même temps c'est tes défenseurs qui marquent pour l'instant, donc c'est aussi compliqué, mais est-ce que tu sors un de tes défenseurs étrangers pour mettre encore plus de poids en attaque? Ça aurait pu être une option lundi soir en l'absence de Boson, justement. En plus, tu es à la maison, puis tu as une défense qui est quand même solide. Il y a un Yolovache qui joue quasi pas depuis le début de ses playoffs et depuis un moment d'ailleurs. Il peut tout à fait tenir sa place en playoff. Mais bon, non, on va pas refaire le match après, ils ne l'ont pas fait. Mais à quel moment Jeff Ward doit changer son fusil d'épaule ou pas, en fait?
Ouais, surtout qu'il a perdu Aurélien Marty, on ne sait pas trop ce qu'il en est, mais ce qu'on sait, c'est qu'il est parti en ambulance. C'est pas un signe exceptionnel. Et s'il le récupère peut-être, ça risque pas d'être pour le prochain match. Et la mémoire à court terme, Lausanne ne peut pas se dire « dans une semaine, il est peut-être de retour, dans deux semaines. » Ouais, bah, comme tu disais avant, mercredi, ils peuvent être en vacances. Donc,
voilà.
Tu veux savoir maintenant ce qu'il en est. À part ça, j'ai trouvé que celui qui a remplacé Boson dans l'alignement, c'était Kennings, et il n'a pas fait un mauvais match.
Ouais, je suis d'accord.
Il a amené ce qu'il est censé pouvoir amener. Alors, ça aurait été bien qu'il marque peut-être un but aussi, mais en termes de physique, en termes de récupération de puck, s'il se contient, on va dire, au niveau des pénalités, c'est un vrai bon joueur de hockey sur glace et c'est pas une nouveauté, mais ces temps, on l'avait un peu perdu. Il n'était pas dans les bons papiers de Ward et de Foust, je pense. Mais ils avaient cette possibilité, on lui a dit « vas-y, t'as ta chance ». Et il me semble en tout cas qu'il n'a pas forcément déçu. Est-ce que ça veut dire que mercredi, avec le retour de Boson, qui va reprendre logiquement sa place dans la troisième ligne, je suppose, avec Raphaël et Jäger, parce que s'il y a une ligne que tu ne dois pas trop toucher, c'est sans doute celle-là en play-off. Est-ce que Kennings, tu le fais glisser, tu le dis vu ce qu'il a produit là, je vais peut-être le mettre en quatrième ligne. Le souci va être effectivement de trouver un centre qui est capable de tenir cette ligne, de gagner les engagements. Là, c'était Benjamin Bougreau qui est un peu lancé au feu finalement dans une partie qui compte. Quand il y a 2-2 dans une série, c'est pas forcément le meilleur moyen pour commencer. Mais et il est peut-être encore un peu léger, ouvert, je sais pas. Je me demande ce qu'ils vont proposer mercredi comme alignement.
Ouais, après, si la réponse, c'est Kennings, moi, je me demande ce que c'est la question, quand même, pour le Lausanne HC. Enfin, c'est presque inquiétant, je trouve. Et finalement, moi, la principale question, c'est qui marque dans cette équipe. Et actuellement, depuis le début de cette série, les deux meilleurs buteurs, et c'est Roland Gay qui l'a dit sur le plateau du PKS, tu me diras, j'avais qu'à regarder les stats aussi, hein, mais je fais le perroquet de Roland. Vu qu'il y en a eu zéro lundi soir, c'est pas difficile d'actualiser la stat. Les deux meilleurs buteurs, c'est Andrea Glauser, 2 buts, et Lucas Frick, 2 buts. Derrière, il y a Pilot, 1, donc ça veut dire que 5 de tes 10 buts de la série sont marqués par des défenseurs. Mm-hmm. Ta première ligne, c'est Suomela, 1 but, Sekatch, 1 but, Rochette, 0 but. Ça, c'est ta première ligne. Et au moment où, justement, si tu te rappelles, durant toute la saison, on l'a dit, et c'était un signe, c'était quelque chose de très positif pour le LHC, c'est que enfin il y avait une première ligne performante autour d'un Suomela qui était un peu ce centre productif de première ligne qui manquait par le passé à Lausanne et qui faisait justement la différence dans les moments clés. C'était mais qui va te marquer les buts? Et pendant la saison régulière, c'était souvent Suomela. Il a vécu une fin de saison régulière un peu compliquée, mais c'était un point, c'était une évolution marquante par rapport à la saison passée. là, on retombe dans justement une équipe qui devient un peu prévisible, je dirais. Et est-ce qu'il faut séparer cette première ligne? Est-ce que finalement, il faut remettre à Pala, comme tu disais, parce que lui marchait bien avec Souamela. En même temps, moi, je l'ai quand même dit plusieurs fois, donc je ne vais pas changer moi non plus mon fusil d'épaule. Mais je ne suis pas sûr qu'Apala soit un joueur de play-off. Donc, je demande qu'à avoir tort. Mais s'il n'est pas sur la glace, j'ai l'impression que ça me conforte presque dans mon opinion de est-ce que vraiment c'est un joueur qui peut t'aider à ce moment de la saison. En même temps, on voit que cette ligne numéro 1 ne fonctionne pas. Et est-ce que c'est la faute d'une personne en particulier? Je dirais non. C'est l'alignement dans son ensemble. Mais que faire?
Ouais, surtout que après, on peut s'appuyer sur les stats et dire que la ligne Salomé qui Souamela à Pala était vraiment, vraiment, elle générait beaucoup. Est-ce que Lausanne gagnait des tas de matchs? Et puis c'était des matchs de saison régulière contre certains adversaires, donc on peut pas forcément non plus que se baser là-dessus. Elle marchait bien, mais alors la question que je peux aussi me poser, mais elle est difficile et elle implique des changements. Peut-être drastique, c'est que si tu recomposes cette ligne Salomé qui Souamela pas là, déjà tu dois remettre les trois ensemble. Après, ils savent jouer ensemble, mais ça veut dire que tu dois trouver quelqu'un pour mettre à la place de Salomé qui. Est-ce que tu mets Rochette à la place de sur le flanc de Ria et Fuchs pour recomposer un trio?
Ça avait été essayé en début de saison, c'était pas hyper concluant. Convaincant. Hein.
Non, parce que je pense qu'il leur faut aussi un. Alors peut-être plutôt mettre un Kennings. Quelqu'un qui vient mettre un peu de poids, qui vient un peu gratter les pucks pour les deux. Ria en buteur, Fuchs en créateur, et puis quelqu'un qui va leur chercher les pucks. Et à ce moment-là, la troisième, ben voilà, Raffel. Si on met Apala du côté de Lausanne, il n'y a pas 50 000 possibilités dans la mesure où tu ne touches visiblement pas à tes deux défenseurs, tu ne touches pas à Souamela. Donc déjà, tu pars avec ça. Salomaki a l'air d'être quand même très important pour le jeu en play-off. Mais finalement, c'est ce qu'on se disait aussi de Raffel et de Sekatch, qui étaient plus des joueurs avec un format play-off en termes de soit de protection de puck, soit de capacité physique, soit d'un peu de ce côté un peu de chien de devant le but qui peut aller faire quelque chose de positif. Mais à un moment, il faudra prendre une décision. C'est vrai que tu te dis, mais si tu n'as rien tenté, est-ce qu'après, quand on va faire le bilan, on va dire, ah bah voilà, mais ils n'ont rien tenté alors qu'ils étaient dos au mur.
Ah ouais, absolument. Absolument.
C'est vraiment difficile d'avoir une image claire de ce que peut faire Ward. Qui, comme on disait, il va récupérer Hughley aussi, il va récupérer Boson, il aura finalement, entre guillemets, que Almond suspendu et probablement Marty blessé, mais sinon, il a quand même son équipe quasi complète.
Ouais, c'est intéressant de voir quels ajustements il va pouvoir être capable de faire, en effet, parce que, est-ce qu'il va en faire? Et finalement, Jeff Ward, on ne le connaît pas vraiment dans cette configuration play-off, on va dire, vu qu'il n'est quand même pas là depuis très longtemps et puis que l'année passée, le Lausanne Hachette n'était pas en play-off. J'en parlais l'autre jour, je le sens un peu plus agité qu'en saison régulière, où justement, je trouvais que c'était pas le calme plat parce que c'est presque négatif ou au contraire, d'un point de vue positif. Il n'y avait aucune... c'était très froid, on va dire, Jeff Ward sur son banc. Et tu te dis, ah ouais, bah, il sait ce qu'il fait, il est serein, il est tranquille. Puis là, j'ai l'impression que ça commence un petit peu à s'agiter. Tu me diras, c'est logique, c'est les playoffs, c'est une nouvelle saison, etc. On connaît assez les refrains. Mais comment il va faire? Et je me réjouis de voir s'il va être borné ou pas. Et ça va être intéressant aussi pour découvrir finalement un entraîneur qu'on connaît assez peu. C'est la manière de gérer ce moment-là.
Absolument. On a une question qui est arrivée pendant qu'on théorisait.
Magnifique.
Elle est en rapport avec le Lausanne Hockey Club. C'est Alison qui nous dit « Bonjour messieurs, cela fait maintenant quelques années que je suis le hockey, mais en étant fan de Lausanne, je n'ai pas une très grande expérience des playoffs. » Un smiley qui Non, pas... Oui, celui qui sourit avec la goutte. Donc je me tourne vers vous, qui avez une sacrée expérience du hockey. Bon, c'est gentil, mais je voulais avoir votre impression pour cette série contre Davos. Je sais que les arbitres ont tendance à moins siffler, mais est-ce que ça ne va pas trop loin? Loin de moi l'idée de la Liga Mafia. Je parle autant pour le côté lausannois que davosien. Quand on voit un match avec autant de frustration que celui d'hier soir, ne faudrait-il pas reprendre un peu le filet, histoire de calmer tout le monde sur la glace et autour? Ça n'excuse pas les débordements, mais je pense qu'on aurait pu les atténuer avec des arbitres qui sifflent plus. Merci pour vos avis et merci pour ces deux épisodes hebdomadaires qui nous régalent.
Merci pour la question et merci pour les gentils mots, ça fait toujours plaisir. Je suis assez d'accord avec ça, en fait. C'est qu'à un moment, les arbitres, c'est aussi, on appelle ça les directeurs de jeu, des fois, quand on sait plus quel synonyme mettre pour arbitre dans nos textes, c'est eux qui doivent diriger le jeu et c'est eux qui doivent justement faire en sorte que le match se passe bien. Alors oui, les joueurs ont clairement leur rôle à jouer là-dedans, mais s'ils sont aidés et s'ils sont canalisés aussi, moi je pense que ce qui énerve souvent les joueurs, c'est de se dire, mais moi ce que je comprends pas en fait ce qui est en train de se passer.
Ouais.
À ce moment-là, il y a un coup de sifflet, puis deux secondes avant, pour ce que j'estime être la même chose, il n'y en avait pas vraiment. C'est souvent cette absence de ligne qui va générer des débordements ou des excès.
Ouais,
et effectivement, je suis pas arbitre, j'ai pas la prétention de leur apprendre leur métier du tout. Mais c'est vrai que des fois, je trouve que dans des matchs où tu sais que ça va être le foin pendant tout le match, est-ce que tu devrais pas très tôt en fait tenir ton match puis dire voilà, là on siffle. Pas tout, mais on a une ligne, parce que finalement, la ligne d'un arbitre, elle doit juste être la même de la minute 1 à la minute 126. Si on va à la 126e ouais. minute, on sait très bien que dès la minute 61, ça va changer, mais le moins possible. Par contre, s'il y a une ligne qui est assez stricte dès le début, en fait, les joueurs, ils vont aussi se dire, aïe, attends, à chaque accroché, je me retrouve sur le banc. Là, il y a déjà eu deux depuis le début du match. Hartung, je ne vais plus le faire. Ou à chaque petit accroc après un coup de sifflet, tu prends systématiquement les deux, puis tu dis, les gars, allez hop, au banc, je vous mets 2 minutes pour du retard excessif, si vous allez vous calmer un petit peu. Peut-être que ça calme aussi justement tout le monde et ça permet d'éviter cette escalade. Et je trouve que c'est fréquemment en play-off, je la vois, j'ai le même sentiment que la personne qui nous a écrit cette question. Donc je rejoins totalement.
Ouais, le terme qu'on peut dire, c'est vraiment la question de cohérence. Et on le disait au début, quand nous, on regarde ça avec le juge unique, c'est finalement la même chose. C'est juste une question de cohérence. Peu importe, après, tu peux tout à fait vivre avec... Tant que l'échelle est respectée, évidemment, quand je parle d'échelle, j'ai tout d'un coup Perceval et Caradoc, évidemment. Mais,
absolument.
Mais tant que l'échelle est respectée, tant que c'est cohérent dans les sanctions, je pense que tout le monde est beaucoup plus serein et il y a moins de ce sentiment de frustration ou de ce sentiment de s'être fait voler. Parce que tu regardes, le coup de canne de X n'est pas passé et le coup de canne de Y est passé. Bien entendu que pour nous, c'est tellement simple avec les images en direct et tout, il n'y a aucun problème. Mais... on a quand même et on sait que les arbitres, pour eux, c'est vraiment pas simple. Et encore plus en play-off, où il y a cette tension, où le moindre petit truc va être sifflé, où dans les patinoires, ça va être... Ils vont se faire insulter, donc vraiment, toujours grand respect à eux, mais simplement d'être un poil cohérent. Si on parle de cohérence aussi, je l'avais dit avant, on voulait revenir aussi sur l'unique but de la rencontre qui a été marqué par Valentin Nussbaumer. Lui, d'ailleurs, c'était drôle parce que quand le jeu s'est arrêté, quand il y a eu un coup de sifflet, parce que je ne sais plus s'il y a eu un dégagement interdit ou bref, ou que le puck est sorti, il a tout de suite fait avec son gant, hep, 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 aller regarder parce qu'il avait déjà levé les bras avant. Et il avait vu que le puck avait franchi la ligne. Donc ça, après, les arbitres sont allés regarder à la vidéo pour voir que ça avait bien touché la deuxième ligne. Le call est correct. Le puck a franchi la ligne. Il y a but. Est-ce qu'il y a un petit contact avec Connor Hughes de sa part? Je pense que ça intervient juste après. Ça ne gêne pas Hughes dans son déplacement. Mais par contre, il y a un autre souci qui a été relevé aussi.
D'ailleurs, il serait peut-être challengé par le Lausanne HC, ils ne l'ont pas fait pour un éventuel contact sur le gardien, ce qui prouve qu'ils pensent qu'il n'y avait pas, et je pense que c'est effectivement correct.
Ouais, mais aussi, ils avaient peut-être peur de se dire, si on a ce co-challenge et qu'on a 2 minutes de pénalité derrière, alors qu'on est en plus mené 1-0, à 10 minutes de la fin, c'était couillu, on va dire.
Bon, il y a zéro. Enfin, ouais, je comprends, ça se défend.
C'est voilà. Et par contre, il y a visiblement un surnombre sur le goal d'Avosien. Et ça, c'est un peu plus embêtant parce que ça voudrait dire que contrairement, peu importe finalement que le puck ait franchi, qu'il y ait eu contact, on annule cette réussite et on donne 2 minutes à Davos. Et à ce moment-là, c'est un 5 contre 4 Lausannois. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils auraient marqué, hein, puisqu'ils n'ont quand même pas marqué pendant ces 60 minutes. Mais ça pouvait peut-être partir en prolongation, etc. Enfin, on ne va pas refaire le match, mais on est obligé quand même de souligner qu'il y a un petit quelque chose là.
Ouais, il y a un surnombre. Dalbec se fait charger derrière la cage, mais un peu de temps à se relever. Part au banc un peu, se laisse glisser au banc, on va dire. Et c'est Sven Jung, ce ferreur, qui rentre à ce moment-là. Il rentre un peu tôt. En fait, je pense qu'il rentre tôt, certes, mais s'il ne touche pas le puck, tu peux un peu encore arguer que le joueur est à moins d'1m50 de la bande et donc il a le droit d'être remplacé par un joueur. Ça, c'est OK.
Ouais.
Par contre, le problème, c'est qu'il va jouer le puck à la ligne bleue. Et au moment où il touche le puck, effectivement, il y a une image qui est terriblement claire. Dalbec est derrière et encore sur la glace. Et en fait, c'est là justement la nuance. J'ai relu le règlement pour préparer l'épisode, que justement, s'il ne fait pas action de jeu, il y a une nuance qui est donnée entre s'il charge ou fait action de jeu avec le puck, l'autre doit avoir quitté la glace, ce qui n'est pas le cas ici. Donc oui, il y a surnombre. On en parlait ce matin dans un groupe avec divers anciens joueurs où tu es aussi présent, on va dire ça comme ça pour trahir aucun nom.
Ouais.
Il y en a quand même un qui a dit « Ouais, mais Greg, dès comme ça, il y en a 20 par match. »
Absolument.
J'ai dit « Ouais, c'est juste. » J'ai pas répondu, enfin, on n'a pas parlé que de ça. C'est juste. Après, il n'y a pas 20 fois but derrière non plus. Mmh. Et ça change aussi forcément un peu. Après, j'étais pas présent au match, je l'ai regardé seulement. J'ai écouté l'audio de l'interview de Jeff Ward. Mathias Davet, mon collègue, était sur place. Il le mentionne, il dit ils ont raté le call, c'est un miss call. Oui, il y a une erreur. J'ai essayé d'attirer leur attention, mais ils sont pas venus au banc pour ça. En même temps, il n'y avait pas de challenge possible pour un surnombre. Il n'y a pas moyen d'aller à la vidéo non plus. Donc finalement, soit tu le rates. Et tant pis, tu vis avec les conséquences d'un surnombre manqué. Soit tu le rates pas, mais il n'y a pas d'autre option. En fait, il n'y aurait pas eu de challenge possible. Rien n'aurait pu être fait finalement. Et il n'y a pas de proté possible non plus. Enfin voilà, c'est juste un surnombre raté. Et là où j'entends la remarque, c'est que si on se penche sur tous les changements de ligne d'un match, il y en a beaucoup où on pourrait voir une petite irrégularité. Le problème, c'est que là derrière, 4 secondes après, il y a but, c'est sûr.
Ouais, et puis. C'est en fait, on est obligé d'attribuer ça aussi à une certaine part de chance. Alors, ça se provoque aussi. En même temps, je crois que c'est aussi Jeff Ward qui le dit, on fait un mauvais changement de ligne du côté lausannois. Et ce qui fait qu'il y en a qui doivent sauter sur la glace, d'autres qui ne sont pas encore sortis au moment où Davos attaque. Et après, ça crée une petite confusion. Et Davos en profite. Ils sont sur ce truc-là, ils sont cliniques. Ils arrivent à utiliser une occasion pour prendre les devants à la fin. Et ouais, peut-être que l'expérience davosienne, tu me diras, même si ça fait un moment qu'ils n'ont plus été champions, mais les playoffs, ils connaissent. Et après, je me posais la question aussi de me dire, est-ce que Lausanne, d'une certaine manière, paye pas un peu son inexpérience des playoffs, mais après, avec les joueurs qu'il y a dans le contingent, c'est des gens quand même qui... Il y en a qui ont gagné des titres, il y en a qui ont fait des playoffs dans d'autres championnats, dans d'autres pays. J'ai l'impression que c'est pas non plus une excuse. Quoi, mais je sais pas comment dire. On a l'impression que Davos a un petit peu plus de flair ou un peu plus de savoir quoi faire au bon moment.
On l'a dit quelques fois durant la saison, et c'était une des thématiques de Jeff Ward quand même, c'est l'absence d'expérience dans son groupe, mais il le disait vraiment pas de manière négative, c'est que c'était un constat très simple et très froid, c'est ce groupe, ce club, ce groupe n'a pas forcément vécu Parce que l'histoire du club, moi, j'y crois pas trop. Dans le sens, si tu mets toute l'équipe de Davos à Lausanne et toute l'équipe de Lausanne à Davos, les Lausannois transférés à Davos vont pas être meilleurs sous prétexte qu'en 73 ou en 1926, le HCD a gagné des titres. Par contre, le groupe en lui-même, effectivement, je pense qu'il y a un peu plus de vécu collectif à Davos. Et bah voilà, ça s'apprend. Finalement, je parlais avant justement de la ligne numéro 1 avec un Théo Rochette sur une des ailes. Ben, c'est ses premiers playoffs à lui avec, chez les adultes. On en a parlé. On en parle aussi quand c'est le cas de Strelé à Fribourg où de temps en temps, il fait des trucs. Tu dis « Ouais, Gaillard, calme-toi un peu. » Ben, voilà, c'est une expérience. Ça s'apprend. Quand on fait tout un foin sur le mode playoff, sur ce que c'est de jouer en playoff, etc., ben oui, ça s'apprend. Et quand un de tes joueurs suisses dominants dispute pour la première fois des playoffs à ce niveau-là, bien sûr, hein, on minimise pas son parcours junior, mais chez les adultes, c'est la première fois, ben ça s'apprend. C'est une expérience qui va être forcément utile pour la suite. Et après, voilà, si tu regardes l'équipe, tu as effectivement pas mal de joueurs qui doivent aussi acquérir cette expérience-là. Et ça, c'est pas étonnant, disons, que ça se passe comme ça. Ce qui est étonnant, c'est que moi, j'en démords pas. Lausanne est la meilleure équipe. Et si tu me mets le couteau sur la gorge et tu me dis qui gagne cette série, moi, je suis désolé, je continue et peut-être que je m'entête. Hein. En fait, je dis donc Lausanne. Je faisais pour l'envers du décor, je suis en route pour Lugano au moment où on enregistre cet épisode. Et j'ai eu une heure de route avant qu'on commence à enregistrer. Je réfléchissais un peu justement à comment je vois les séries. Et ça m'est arrivé aussi parce que je joue de temps en temps sur la Loro et sur les playoffs. Et le nombre de fois dans ma carrière, entre guillemets, de parieur où je me suis entêté sur « Non, mais cette série, elle va tourner dans ce sens-là ». Et du coup, le plus vieux souvenir que j'ai, c'est Fribourg-Zurich, quand Fribourg est 8e et Zurich est champion d'Europe, et que Fribourg élimine Zurich. Plus ça allait dans la série et plus je pariais sur Zurich, ben je me suis dit non, mais c'est pas possible. En fait, Fribourg va pas pouvoir gagner 4 fois contre cette équipe-là. Tu vas voir, là, je vais me refaire. Et c'est jamais arrivé. Et ça m'a fait me dire, mais des fois, ben justement, les playoffs, c'est autre chose. Et les tendances, ce qu'on voit de concret et de tangible, on va dire ça comme ça, ben en fait, c'est en train de, ça part au feu. Et je trouve intéressant, finalement, et challengeant, peut-être. Et justement, au début de ces playoffs, et j'en ai parlé dans les tout premiers épisodes de cette série, un de mes amis qui voulait parier sur les playoffs, je lui ai dit, mais mon pauvre, joue pas sur les playoffs. Et la preuve, j'ai très peu de paris sur ces playoffs. Et moi, je parce qu'il y a beaucoup plus d'incertitudes, finalement, et de... Ouais, la glorieuse incertitude du sport, elle est vraiment glorieuse en playoff, quoi.
Absolument, mais c'est... Par contre, si je dois donner un... Comment dire une lueur d'espoir aux fans lausannois, s'il y a besoin qu'ils en aient une, pour ce match 6 à Davos, j'ai trouvé la... Physiquement... Je revois une image de Dalbec qui rentre au banc un peu... parce que Lausanne vraiment charge. Et quand ils restent dans les limites de l'acceptable, j'ai l'impression qu'ils font mal à Davos maintenant. Et qu'ils vont normalement... ils devraient les fatiguer. Et plus la série avance, plus tu dois te dire que le physique, peut-être, ça permet de prendre le pas, d'aller récupérer les pucks. Si t'as le puck, bah t'as plus de chances de marquer des buts, etc. Et que Eschliman, aussi bon soit-il, c'est quand même... Ça reste un être humain. Donc, on a vu qu'il y a des matchs où il a aussi pris des goals qui n'étaient pas... je vais pas dire que c'est des soft goals, mais il n'était pas invincible. Et que Lausanne a la recette pour trouver le... un moyen d'avoir un match 7.
Ouais, je suis d'accord. Et après, ben là, le match 7 à la maison, en général, c'est quand même l'équipe à domicile qui est favorisée historiquement. Mais le match 6 à l'extérieur, quand t'es mené 3-2, là, j'ai pas les statistiques, mais j'ai quand même l'impression que Davos, en gros, moi, dans mon esprit, et je pense que ce sera dans l'esprit des Davosiens, ils jouent le match 7 à la maison.
Ouais.
En gros, c'est si on perd là, nous, on va pas vouloir retourner là-bas, on va pas aller une troisième fois braquer Lausanne sur sa patinoire. C'est maintenant ou jamais, j'ai l'impression. Et si Lausanne arrive à aller là-bas et à gagner, derrière, moi, je vois pas comment Lausanne peut perdre, mais ça me fait plus. C'est sûr que le match à Davos va être plus compliqué, c'est une évidence, mais Lausanne a tout en main pour bien faire. Effectivement, je te rejoins complètement. Ben voilà, au terme de cet épisode 31, ça défile pendant ces playoffs. On se croirait au championnat du monde. On se réjouit d'ailleurs d'être à Prague dans pas trop longtemps pour enchaîner l'épisode. On a évidemment parlé que de Lausanne aujourd'hui pour des raisons claires. Hein, vu que Fribourg joue dès ce soir à Lugano, on ne peut pas faire des théories. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, on les a déjà fait clairement lundi dans l'épisode qui a déjà sorti pour préparer le match de ce mercredi soir. On va revenir, là par contre on n'a pas un échéancier très clair, ça va aussi dépendre si il y a des matchs 7, comment, voilà, si laissons-nous surprendre par les événements, et pour le prochain épisode il suffira d'aller voir sur nos réseaux sociaux, on va l'annoncer, et puis d'ici là nous on est joignables pour des questions, on essaie de les prendre, même quand elles tombent pile pendant l'épisode on arrive à les rattraper, donc n'hésitez pas, tu es réactif en l'occurrence, je ne l'avais pas vu. Et d'ici là, le prochain épisode, profitez bien de ces rencontres, profitez bien pour les gens qui vont soit à Lugano, soit à Davos, profitez du voyage, prenez vos avances parce que ça va être un week-end chiant, donc je sais pas à partir de quand ça va l'être, mais prenez de la marge et portez-vous bien et bon match.
À bientôt.